Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal, qui est de retour après un peu plus d'un mois d'absence, et vous écoutez une balado-diffusion du bulletin GP dans le cadre du Grand Prix, de l'après-course du Grand Prix des États-Unis. Donc, d'abord, veuillez me pardonner, je suis pas mal rouillé. Et heureusement, j'ai la meilleure personne pour me replacer si jamais je fais un décorum. Jean-Sébastien Barbeau, salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou, très heureux de te revoir.
Ah,
et en fait, et surtout de te réentendre.
Ah ben écoute, c'est réciproque. Et je suis très content d'être revenu en un morceau de mon voyage au Sénégal. Ça a été très bien. Ça a été superbe aussi. J'ai pas encore regardé l'entièreté du Grand Prix du Qatar. Mais de toute façon... De toute façon, j'ai regardé les faits saillants, donc je peux dealer avec ça. Mais sinon, très content d'être revenu pour regarder un Grand Prix en direct pour la première fois en presque un mois, je te dirais. Ouais, c'est ça, un mois.
À peu près un mois. Hein. Et en plus, c'est quand même un bon Grand Prix.
Ah oui, oui, oui. Écoute, je sais que je l'ai publié sur Facebook. Tout mon amour pour le Grand Prix des États-Unis à Austin. Et je crois que, à part pour le sprint, ce Grand Prix n'a pas déçu.
Non, c'est un bon circuit, Austin. On va se le dire, là, c'est, encore une fois, c'est un circuit d'Herman Tilke. On peut dire ce qu'on veut là avec la construction des circuits Tilke, mais celui-là, c'est peut-être son meilleur. Parce qu'on peut dépasser dans chacune des sections du circuit Tilke. Section avec les S, section rapide, section plus lente. Il y a plusieurs zones de dépassement. C'est ça qui est intéressant. Très vallonné. Et les gens sont au rendez-vous. Ça, c'est chouette.
Ah oui. Ah oui, 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 oui. Écoute,
ça a toujours été plein. Ça a toujours marché, Austin.
Ah oui. Je pense que finalement, oui, on parle d'avoir Miami, mais la fondation pour la popularité de la Formule 1 à l'heure actuelle.
Ça passe par Austin.
Ça passe par Austin. Et jamais j'aurais cru qu'il y a 10 ans, on disait, le succès de la Formule 1 passait par la capitale du Texas.
Je pensais pas que le Grand Prix allait durer autant d'années. Je pensais qu'après 4 ou 5 ans, on allait lever les pattes et partir. Non, non, ce Grand Prix-là, il est bien inscrit dans le calendrier et c'est un bon Grand Prix. Donc, tant mieux.
Exactement. Et puis, en même temps, je vais pas frustrer le monde déjà à mon retour, mais oui, on a les Silverstone, Spa, Monza, Monaco, mais des classiques, ça se construit aussi dans la nouvelle génération et justement, Austin est en train de devenir un Grand Prix, justement, qui s'inscrit dans la lignée.
Et tu vois, ce qui est intéressant, et ça va nous permettre de faire la transition avec le Grand Prix d'aujourd'hui, c'est que maintenant, on est capable de gagner plus loin que la deuxième position. Parce qu'avant, les 9 premières éditions, on pouvait uniquement la gagner soit P1, P2. Pour la première fois, on a quelqu'un qui l'a gagné de P6. Donc, on commence à briser un peu le rythme classique et commence à avoir vraiment des vraies histoires qui s'inscrivent pour Austin. Donc, ça, c'est super intéressant.
Et oui, et c'est très bien que tu mentionnes ça parce que le vainqueur du Grand Prix est parti de la 6e place. Et celui qui est parti 6e, c'est Max Verstappen. Max Verstappen.
Ça étonne quelqu'un? Pas vraiment. 10e victoire cette saison, 50e en carrière.
Ben oui. Donc, le pilote de la compagnie qui fabrique de la boisson énergisante, parce que j'ai pas envie de nommer le... Je suis encore en tabarnak après l'élimination du CF Montréal hier.
OK, on est rendu dans un épisode explicite.
Non, écoute, parce que, bon, Verstappen a gagné devant Lewis Hamilton. Sur Mercedes, Lando Norris sur McLaren complète le podium. Carlos Sainz, 4e. Sergio Perez sur l'autre voiture boisson énergisante, 5e. Charles Leclerc, 6e. Sur l'autre Ferrari, George Russell, 7e. Avec Mercedes, Pierre Gasly avec Alpine Astar F1 Team, 8e.
Oui, c'est juste.
Lance Stroll, dans la Aston Martin, 9e, et qui est parti de la ligne des pays. D'ailleurs, on va en reparler.
C'est une super performance, ça.
Ah oui, ça, c'en était une vraiment bonne.
Oui, ça, c'est une vraie, ça.
Et Yuki Tsunoda marque 2 points en finissant 10e parce qu'il a obtenu le point pour le meilleur tour en course.
Sur la voiture de la marque de vêtements de la marque de boisson gazeuse, énergisante.
Ah oui, exactement, oui. Et vous comprendrez que je suis encore en forme, je suis en colère parce que l'autre, l'équipe sportive, le club de foot, a éliminé Montréal donc grâce à un but marqué sur penalty qui a mis fin à la saison de Montréal. Donc vous comprendrez ma profonde haine pour la prochaine semaine envers cette compagnie de boissons énergisantes. Mais on va avant tout faire les évaluations. Donc, Jean-Sébastien, performance, contre-performance et moment cocasse.
Performance du jour, j'ai donné à deux personnes. D'un côté, Max Verstappen, parti sixième, fini premier. Premier pilote dans l'histoire du Grand Prix à Austin qui part plus loin que la deuxième position et qui gagne le Grand Prix. Ça dit déjà quelque chose sur une certaine difficulté, à tout le moins, peut-être de remporter ce Grand Prix ou à l'importance de la qualification, tiens, qui n'est peut-être plus aussi vrai, mais quand une voiture aussi performante, évidemment, si Verstappen n'avait pas eu son track limits pendant la qualification de vendredi, il aurait été sans doute dans le top 2 et aurait gagné le Grand Prix avec beaucoup plus d'aisance qu'aujourd'hui parce que ça n'a pas été si simple. Donc, a su bien remonter, a bien joué sur la stratégie des pneus. On en reparlera tout à l'heure, là, mais moi, je sens des relents des fameuses Mercedes des années 2010 et des Ferrari des années 2000 où il faut tout lancer à eux niveau stratégie, puis même ça, ça ne suffit pas pour gagner. Ça veut dire qu'il y a de la réserve quand même là, chez Red Bull.
Carrément.
C'est ça. Et donc, autre co-performance du jour, Lance Stroll, parti de la ligne des puits, fini 9e, marque des points. On le sait, cette voiture-là a beaucoup de difficultés, mais le nouveau package aérodynamique semble fonctionner. Pendant un moment du Grand Prix, Alonso était devant, mais il y a eu un problème de suspension, je crois, pour sa raison de l'abandon. Donc, Stroll a pu assurer et marquer des points. C'est pas beaucoup, c'est sûr, mais en ce moment, pour Aston Martin, j'ai l'impression qu'on prend tous les points qui peuvent passer. Là. C'est quand même, on est quand même loin du début de saison où on disait ah, des podiums par-ci, par-là, et ça va être une belle saison. C'est pas vraiment le cas. Contre-performance du jour. Et j'ai pas de moment loufoque, là. Contre-performance du jour, je vais la donner aux téléspectateurs qui ont voté le pilote du jour, Lando Norris. Lando Norris est élu pilote du jour. Il termine en troisième position et est parti deuxième. Donc, on considère que le pilote du jour, c'est quelqu'un qui a perdu une position pendant le Grand Prix.
Ouais.
Je vous laisse analyser ça comme vous voulez.
Ouais, ben, honnêtement, moi, c'est pour ça que j'ai dit pilote du jour, ça devrait être éliminé carrément parce que moi, je comprends. Ben, écoute, c'est un concours de popularité, on va se le dire.
C'est un concours de popularité. On sait comment Lando Norris est très populaire, mais ça n'avait aucun sens.
Ben,
tu n'es pas pilote du jour quand tu perds une position.
Et dans les circonstances aussi, oui, on va dire Lando Norris a fait un très bon Grand Prix. Mais je suis pas sûr de lui donner le titre de pilote du jour. Parce que je pense que Verstappen, oui, on savait qu'il allait gagner ce Grand Prix. C'était juste une question de savoir quand est-ce qu'il allait mener l'épreuve. Ça a été un peu plus tard que prévu. Mais justement, malgré les ennuis qu'il a eu en fin de course, il a été capable de gérer le tout face à son bon rival. Donc, moi, je pense que Verstappen aurait eu mon vote, mais encore là, c'est un concours de popularité. On ne va pas se cacher.
Et donc, toi, ton côté, performance du jour contre performance, performance, je suppose que c'est Max Verstappen.
Oui, ben, Max Verstappen, performance du jour. Lewis Hamilton aussi.
Ouais.
Dans les circonstances. Et Lance Stroll aussi, il ne faut pas se le cacher. Ça a été une très belle performance de sa part.
Ouais, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il marque des points. Hein. Ça allait très mal pendant le Grand Prix.
Moi non plus. Donc, vraiment, je veux dire, Aston Martin a fait un bon Grand Prix dans les circonstances. Ouais. On en reparlera. Ouais. Contre-performance, quel serait un balado animé par Abdou Sal sans parler de « It's the history of the Ferrari ».
Oui, Ferrari qui part premier, Leclerc, et qui termine sixième.
Ça, je garde mon énergie parce que j'ai un point sur Ferrari. Malheureusement, je n'ai pas l'intro, donc évidemment, je suis rouillé, mais ça va être la prochaine fois. Probablement dans la pré-course du Grand Prix du Mexique. mais on en reparlera. Sinon, moment cocasse, Lorsque Hamilton a passé Norris, il y a eu cette reprise où on a vu des fans possiblement de Lewis Hamilton en train de narguer ceux de McLaren.
Tellement américain.
Et oui, c'est tellement américain, mais c'était du pur shit house.
Oui, c'était je trouve juste stupide, niaiseux, comme pourquoi?
Et aussi plus jamais, ça c'est, je m'excuse de faire du gatekeeping, mais plus jamais de rendition de Sweet Caroline sur la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1. Écoute, et puis je l'ai écouté, j'ai été faire le party la nuit avant le Grand Prix des États-Unis.
Oui, on sait comment t'es un noceur très connu.
Ouais, exactement. Alors, j'ai dansé sur Sweet Caroline, qui était 3000 fois meilleur que ce que j'ai entendu.
Ah ouais?
Okay. Oh non, non. Puis il y avait, je pense qu'il y avait dit Don't Stop Believing aussi.
Ouais, moi j'ai écouté le Grand Prix sur TSN, puis il y avait évidemment, c'était la retransmission de Sky Sports Formula One. Et dans le background, après dans l'arrière-plan, après l'hymne national, on a entendu Don't Stop Believing fait au piano, mais encore une fois, une reprise, une catastrophe. L'hymne national aussi était assez mauvais.
Ouais.
On peut le souligner, mais ça peut pas être aussi mauvais. Et ça, j'ai déjà dit au balado que l'hymne national à l'Indianapolis 500 en, je pense, 2001, c'est Aerosmith qui le fait. C'est d'une dégueulasserie. Ça, c'est un manque de respect. Point pour tout. Ouais. L'hymne national, les Américains, mes oreilles. La musique.
Ouais. Non,
c'est Allez voir ça sur YouTube. Là, je suis sûr que vous pouvez le trouver. Là, c'est une catastrophe.
Ouais. C'était pas... Non, l'hymne d'aujourd'hui, c'était pas non plus fameux.
Je te le donnerai en lien, Abdou. On pourrait le mettre en lien dans le descriptif du balado. Là.
Ouais.
Je vais essayer de le trouver.
Super. Puis je mettrai aussi. Je le partagerai aussi au modérateur de la monoplace, surtout à un cofondateur qui a dit que c'était bon. Je vais pas le single out, mais.
Wow.
Écoute.
Je l'ai. Steven Tyler, l'hymne national du retour. 3 minutes avec lui.
Oh, fudge. Wow. OK. OK.
Donc, vous avez ça dans le descriptif du balado en ce moment. Là, donc, allez écouter ça. Là. Mettez le balado sur pause, là, puis revenez pour la suite.
Ouais, oui.
En fait, non, attendez la fin du balado, parce qu'une fois que vous allez avoir entendu ça, vous allez avoir le goût soit de vous trancher les oreilles comme Vincent Van Gogh, ou tout simplement de plus jamais écouter quoi que ce soit dans votre vie. Donc, finissez le balado en premier.
Ouais, de grâce. Faites ça en premier. Comme ça, vous pourrez m'entendre ne pas dire le nom de la compagnie pour laquelle Max Verstappen a remporté le Grand Prix de la 6e place. Parce que c'est une 50e victoire, mais celle-là, il a dû travailler fort pour la remporter.
Oui, il a travaillé dur. Hein? Juste déjà voir l'écart à la fin, 2,2 secondes. Puis s'il y avait eu un ou deux tours de plus, je pense qu'Hamilton l'aurait gagné, hein? Parce qu'à la fin, ça allait pas bien au niveau des pneus. C'est ce qu'il a dit dans le fameux Verstappen podcast maintenant, là, le moment de débrief avant le podium. Là, il a parlé de ses pneus, mais grosso modo, super course de Verstappen qui a surmonté les voitures. Petit à petit, a pris un peu de temps pour remonter sur les marches du podium au début du Grand Prix, mais a fait une stratégie assez classique, disons, a joué l'undercut tout de suite pour assurer, pour aller chercher les quelques dixièmes le tour suivant, a fait deux arrêts, c'est ce qui était à peu près prévu. Le seul qui a pas fait ça, c'est Ferrari, évidemment, avec le résultat qu'on connaît, mais oui, a su bien remonter, a joué sur les trains de pneus a su mieux gérer ses pneus de façon générale, contrairement aux autres équipes. Mais comme je disais tout à l'heure, au début du balado, il faut vraiment tout mettre auprès des autres équipes pour essayer de battre une équipe comme la boisson énergisante. Ça rappelle exactement ce qu'on voyait avec Mercedes dans les années 2010, quand Vettel essayait de jouer sur une stratégie de pneus pour essayer d'aller chercher Hamilton ou ce que toute autre équipe pouvait essayer de faire versus Ferrari pendant les années 2000. On joue sur les stratégies de pneus, on joue un peu en dissonance, en faisant une stratégie un peu différente, mais ça suffit pas. Mais on passe proche, mais ça manque. Donc, ça veut dire que cette équipe-là, actuellement, l'équipe de boissons énergisantes, est très, très forte. Ils en ont dans la réserve et c'est quand même beau à voir.
Ah oui, vraiment. Et puis, en plus, je regardais justement Max rouler pour aller chercher les positions, surtout sur les Ferrari. Et autant la victoire était magnifique, autant moi, il y a eu un point, justement, j'étais avec mon ami dans mon désormais traditionnel party de visionnement du Grand Prix des États-Unis chez moi. Le dépassement de Verstappen sur Leclerc.
Pas super clean.
C'était pas super clean.
Il a quand même poussé un peu.
Ouais, je suis d'accord. Donc.
Mais en même temps, Leclerc aussi est allé très large, donc il est un petit peu responsable aussi.
OK. Parce que moi, je m'attendais, c'était pas fair. C'était pas un dépassement fair. S'il y avait eu du gravier à cet endroit, moi, je pense que Verstappen aurait eu une pénalité.
Je pense pas que Verstappen aurait essayé de le pousser aussi loin s'il y avait eu du gravier. Donc, ça veut pas dire nécessairement qu'il l'aurait dépassé.
Aussi. Mais.
C'est très invitant, le virage 11, hein.
Ah oh, oui. Ce virage-là, c'est vraiment avec le virage 1 et le virage 9 ou 10 ou
9,
11, là.
Oui, oui.
Avant l'épingle, avant la deuxième de DRS. C'est un point de dépassement important sur ce circuit. Mais bon, il n'y a eu aucune enquête. Donc, Verstappen a été capable de le faire.
Ouais.
Mais aussi côté stratégie aussi. Hein, parce que Verstappen a fait médium dur. Tandis que Norris a fait médium dur.
Donc, parce qu'il a trop usé ses pneus en qualif. Ah, ce qui revient à ce que je te disais il y a un instant. Ça veut dire que les boissons énergisantes peuvent ne pas tout donner pendant le week-end, alors que toute autre équipe doit absolument tout jeter,
ouais,
pour essayer d'égaliser leur niveau sur un circuit qui n'avantage pas nécessairement l'équipe principale. Donc, encore une fois, la stratégie, on peut la trouver osée. On peut dire « Oh, Verstappen l'a eu difficile aujourd'hui ». Pas tant, finalement.
Non.
S'il n'avait pas fait son track limit en qualif, l'écart à la fin, là, c'est pas 2,2 secondes. C'est facilement une dizaine, voire une quinzaine.
Ouais, maximum.
Le plus loin que Verstappen a été au début du Grand Prix face à Norris quand il menait, c'était autour de 7 secondes.
C'est ça. Je pense que 15 secondes.
On rajoute 7 secondes à 2,2, ça fait 9, disons 10. En 10 et 12, là, c'est l'écart réel du Grand Prix.
Et surtout aussi qu'à la fin, Verstappen a dû gérer des problèmes de frein.
Il a perdu 3 secondes là-dessus.
Et dans les derniers tours aussi. Dans les derniers tours surtout.
Le dernier tour, c'est moins pire parce qu'il était à 1,8 puis il a fini à 2,2. C'est sûr que Hamilton a sans doute dû lever le pied, mais il y avait une avance de 5 secondes. Ça a été réduit à 1,8.
Oui. Et surtout qu'Hamilton était sur des pneus médiums aussi.
Trois tours plus jeunes.
Trois tours plus jeunes, donc il pouvait pousser encore un peu plus.
Ouais.
Alors, Verstappen a été vraiment en mesure de gérer les problèmes de frein, même si Giampiero doit être encore en tabarceloun après lui. D'ailleurs,
GP doit l'avoir difficile, hein?
Ouais, hein, parce que
GP, je trouve qu'il passe un mauvais quart d'heure à peu près tout le temps.
Et
je l'espère bien payé.
Je pense qu'il avait dit à la radio lorsque Max a gagné, il a dit: profite des célébrations, on se retrouve vendredi.
Exact. Ouais. Ça veut dire que JP aussi doit y donner du fait leur tour d'avoir Chapin. Ouais. Donc, c'est du bon RG Bargy dans le garage, pourquoi pas.
Mais peut-être moins pire que Yoss. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Non, mais Yoss de Boss, ça, c'est autre chose, oui.
Ouais. Écoute, Anthony Joshua était là, je pense que ça aurait été... J'irai pas jusque-là.
Oh, OK.
J'irai pas jusque-là. mais ouais, écoute... Quand même, ça a été une bonne 50e victoire pour Max Verstappen, qui rejoint ainsi les Sébastien Vettel, Alain Prost, qui est le prochain sur la liste, Michael Schumacher et celui qui a fini derrière, qui a fini juste derrière lui, sur Lewis Hamilton. Quand même, moi, j'ai eu peur pour Lewis parce que à un moment donné, on se disait, ah, il va vraiment faire un arrêt, mais ouais, c'était...
Mais non, rapidement, on a bien compris qu'il ne pouvait pas faire un arrêt, là. Parce qu'il s'est arrêté... parce que Verstappen s'arrête au 17e, les Ferrari... on avait deviné qu'il faisait deux arrêts puis qu'il faisait l'undercut. Puis là, on se demandait si Hamilton allait faire un arrêt. Puis finalement, non. Parce que quand il s'est arrêté au 20e, il est passé à médium. Donc, on savait tout de suite qu'il allait en faire deux, là. Donc, c'était difficile. Parce qu'il est passé de médium à tendre plutôt, excusez-moi. Et là, on savait qu'il ne pouvait pas rester. Donc, ça lui a juste donné le rythme pour pouvoir bien rester en course. Mais oui, c'était... ça tombait sous le sens, cette stratégie. Ça a plutôt bien payé pendant ce temps-là, au moins. Mais Hamilton, oui, a fait une course propre. N'a pas fait d'erreur particulièrement. Il y a un moment donné... c'était pas lui. Est-ce que c'était Russell? À un moment donné, on a suspecté peut-être une pénalité de 5 secondes.
C'était Russell.
Oui, c'était Russell. Oui, c'est ça. Je confonds un peu, là. Et oui, à part ça, vous voyez, j'ai de la misère à décrire la course d'Hamilton. J'ai très peu de notes sur lui. Donc, la course était propre de son côté, hein.
Ouais. Et puis, d'ailleurs, Verstappen a dit que Hamilton aurait pu gagner ce Grand Prix s'ils avaient une meilleure stratégie. Et je pense qu'on est
d'accord. S'il le dit, ça doit être vrai.
Ouais. Je pense que... Je pense qu'on est pas mal d'accord parce que je pense que peut-être si c'est arrêté le tour après que Norris se soit arrêté, peut-être il aurait une meilleure chance pour se battre.
Mais Hamilton a beaucoup usé ses pneus en début de Grand Prix.
Exactement.
Peut-être qu'il n'y en avait plus.
Ouais, surtout pour se rapprocher de Lando Norris.
Ouais.
Donc ça aussi, ça peut-être pas aidé non plus. Hamilton, mais le fait que Verstappen ait eu des problèmes de frein, ça lui a donné un petit peu d'espoir pour aller chercher peut-être cette première victoire depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. Damn, ça va faire bientôt 2 ans. Normalement, on est habitué à voir gagner...
Habituellement, il gagne à chaque année.
Une victoire à chaque année, mais là, ça va faire déjà...
Mais Hamilton était très content. On l'a entendu à la radio une fois qu'il a passé la ligne d'arrivée. Cette voiture s'améliore beaucoup, mais il reste encore du travail à faire pour revenir à l'avant. Je ne sais pas dans quelle mesure il reste du travail à faire. Il faut que Verstappen ait une mauvaise qualification pour que ça arrive.
Ouais. Et je me dis aussi, peut-être que... Est-ce que Brésil devient... la prochaine cible de Mercedes pour une victoire?
Parce que on l'avait estimé après le Grand Prix d'Italie. Rappelle-toi, on regardait le calendrier puis on se disait où Verstappen pourrait l'échapper. Finalement, il l'avait échappé du Grand Prix souvent à Singapour, mais on l'avait regardé. Là. On s'était dit peut-être. L'autre qu'on avait estimé, c'est le Brésil, parce que je vois mal comment Verstappen et Perez peuvent l'échapper, enfin juste Verstappen, point, à Mexico.
Ouais.
Vegas, c'est trop difficile à dire. Yas Marina, ça devrait être bon. Donc, il reste à Opolo. C'est là qu'ils l'ont échappé l'année passée. Très possible qu'il échappe aussi.
Oui, exact. Et surtout que Mercedes a souvent été fort dans l'ère hybride. Mercedes a été vraiment forte sur ce circuit.
Oui.
Alors,
et la foule est du côté de Mercedes.
Exactement. Parce que
du côté de Hamilton.
Oui, parce que Lewis est un membre honorifique, est un citoyen honorifique du Brésil. Celui qui espère être un jour citoyen dans notre pays, c'est Lando Norris. Ben, quoi qu'il a, sa mère est belge aussi, a des origines belges aussi.
Oui.
Donc, Lando Norris, ça là, moi je pense que légitimement Norris aurait pu gagner ce Grand Prix, mais juste a été juste défait par un Red Bull un peu plus intelligent, en fait.
Oui, une équipe plus intelligente, une équipe plus performante aussi. Peut-être mauvaise gestion des pneus.
Aussi.
Ça semblait compliqué un peu. Donc, oui, c'est au 30e quand Verstappen s'est arrêté, là, puis on voyait... Le dur de Norris a fait un tour de plus que celui de Verstappen et celui de Verstappen semblait être passablement usé. Donc, j'imagine que sur les Norris aussi, il l'était davantage. C'est pour ça qu'il colle loin. Il se fait coller 8 secondes quand même par rapport à Hamilton à la fin. Et Sainz aurait pu peut-être même le remonter. Là. Je pense qu'à un moment donné, on lui a dit à Sainz de pousser et il l'a fait un peu, mais en est, ça a fini par arrêter. Donc, ouais, c'est une course... je ne sais pas si c'est un bon résultat pour Norris. Il est là, mon point.
Ouais.
Tu pars deuxième, tu finis troisième. Tu as la sympathie du public en étant le pilote du jour. C'est quelque chose qui est oubliable. Mais il y avait une possibilité de gagner le Grand Prix, puis ce n'est pas arrivé. Et il y a un peu de la performance de la voiture, la stratégie qui était impliquée. C'est difficile de résister contre un Verstappen.
Ouais, exact. Et moi, je pense quand même... Bah, Norris avait fait une très bonne entame et...
Le deuxième train de pneus n'a pas marché.
Le deuxième train de pneus n'a pas marché. C'est peut-être ça aussi. Parce que si c'était... Et j'ai trouvé ça un peu... Est-ce que c'était savage de la part de Johnson ou... Mais de dire que si c'était un sprint, Norris aurait gagné... Pendant un grand prix, je l'aurais peut-être pas dit ça. Je pense que Lando avait mal. On l'a senti aussi dans sa voix lors à la radio que ouais, c'était un podium, mais je pense qu'il avait vraiment l'opportunité de gagner. Mais c'est juste, oui, effectivement, peut-être il aurait pu avoir une meilleure gestion de pneus, mais il pouvait. Et en plus, il y avait Hamilton qui poussait derrière avec. Les pneus médiums, donc à partir de là, il était foutu.
Mm.
Donc, ouais, c'est un podium, mais pour reprendre le meme de Wario, I got a podium, but at what cost?
Exact, c'est ça. N'empêche, 12e podium en Formule 1 en 100 Grand Prix, ouais. C'est très remarquable. Dans l'absolu, notons que c'est deux podiums de plus que George Russell, mais George Russell a une victoire, mais les deux sont à 100 Grand Prix. Donc après, on peut très bien faire le débat, savoir qui est le meilleur entre lui et Russell. Franchement, moi, j'en ai aucune idée. Là. Je trouve ça assez difficile, mais bon, c'est quand même 12 podiums en 100 Grand Prix. C'est un podium aux 10 Grand Prix. C'est une bonne moyenne pour lui. Mais surtout, la majorité de ses podiums sont arrivés dans les deux dernières années.
Et surtout que Norris a 100 Grand Prix avec McLaren aussi.
Exact, exact. Alors que Russell, lui, a fait quand même... combien de saisons chez Williams? Trois. Oui, parce qu'ils complètent leur cinquième année.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Oui, donc dans le cas de Russell, tout est arrivé depuis le fameux Grand Prix de Bahreïn.
Ouais.
Sur l'Oval.
Ouais, exact. Et surtout que Russell a un podium avec Williams. Avec deux écuries même, devrais-je dire.
Ah oui, Belgique 2021.
Ouais, ce Grand Prix, entre guillemets.
2022, pardon.
2021, ouais, c'était 2021. Ouais.
2021, oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, ben, au moins, ben, il y a Piastri qui a abandonné sur un problème potentiellement relié avec son accrochage au...
Avec Ocon.
Avec Esteban Ocon.
Et Piastri qui avait gagné 4 places au départ.
En plus, il avait fait un très bon départ, mais... C'est ce qui s'est passé, c'était juste un incident de course. Mais néanmoins...
Et juste comme on parle de un peu de McLaren et de la dualité McLaren-Mercedes, as-tu compris pourquoi Russell a perdu 3 places au départ? C'est un très mauvais départ de George Russell.
Ouais, ça, j'ai pas vraiment... Vu d'abord, il s'est fait manger par Max Verstappen dès le départ.
Oui, donc ça fait déjà une place. Mais les deux autres, Piastri qui le dépasse visiblement, et l'autre, ben, ça devait être Gasly, en fait.
Ouais. Ouais, pas sûr.
Ah non, ça devait être Ocon parce qu'ils se sont percutés.
Ouais, exactement, ouais.
Donc. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi Russell a perdu 3 places. Parce qu'au final, il termine 7e. Il termine à 28 secondes de Lewis Hamilton.
Ça a été une course très anonyme, ben, de la part de Russell, à part le fait qu'on l'ait entendu, à part que Checo, de toutes les personnes qui vient se plaindre de track limits, alors que ce dernier avait eu 2 pénalités de 5. 2x5 au Qatar pour la même infraction, mais bon.
Ouais. Et George Russell qui s'est ramassé en pilote avec un drapeau noir et blanc au 10e tour pour les track limits.
Wow. quand même.
C'est long. Ça, c'est sûr que ça impacte aussi ton résultat final et ta distance par rapport à ton coéquipier quand tu es déjà sous l'avertissement d'une pénalité.
Exactement.
Au 10e tour sur 51.
Exactement.
54.
Exactement. Et pour revenir à McLaren, ben, au moins avec les 15 points de Lando Norris, plus ceux du sprint, McLaren est officiellement quatrième au championnat des constructeurs devant Aston Martin, qui marque officiellement 2 points grâce à Lance Stroll, qui d'ailleurs n'est aucunement pénalisé. Ça vient d'être tombé pendant que tu parlais, en fait. Donc, Lance Stroll est officiellement blanchi par la FIA pour avoir manqué, ben pour en fait être allé sur la grille alors qu'il partait de la ligne des puits. Donc, je crois que la FIA a été consciente que c'était une erreur de sa part, sans mauvaise intention ou quoi que ce soit. Mais au moins, il a été retourné dans la ligne des puits sans problème. Alors, la 9e place de Stroll est légitime. Et d'autant plus que, quand même, on l'a peut-être pas beaucoup vu. On n'a peut-être pas beaucoup vu Lance Stroll, contrairement à Fernando Alonso. Mais ça a été une bonne course de la part du pilote québécois. Surtout en partant de la ligne des puits.
Oui, officiellement, il partait 20e. Donc, c'est encore plus long partir parce qu'il faut laisser les 3 autres voitures devant, parce qu'il y en avait 4. Les 2 Haas aussi étaient devant les 2 Aston Martin et dont Alonso. Donc, c'est pour ça que Stroll partait bon dernier. A pu remonter 9e. Je ne pensais pas qu'il allait marquer des points. Encore une fois, on ne l'a pas particulièrement vu pendant le Grand Prix. Donc, c'est difficile de faire. C'est difficile de donner son appréciation finale à Alan Stroll, mais quand même, fini 9e, fini dans les points. Était très proche de Pierre Gasly. Était à 7 dixièmes de seconde de Gasly. Donc, il y avait peut-être l'espoir même pour finir en 8e position, mais quand même, c'est un bon résultat. Je pense que ça permet de l'aider dans sa confiance, parce que la confiance de Lance Stroll doit quand même être assez basse en ce moment. La saison, c'est une saison de misère pour lui. J'ai l'impression que c'est pas la première saison de misère qu'il a en Formule 1. C'est ça la difficulté. Puis c'est même aussi juger son intérêt en faire le sport. Donc, quand il y a des rumeurs qui disent que le père Stroll est prêt à vendre l'équipe pour 850 millions de dollars américains, ben oui, il y a peut-être... Il n'y a pas de la fumée sans feu. Il y a peut-être quelque chose aussi du côté de Lance Stroll. Enfin.
Ouais, aussi.
Est-ce qu'on peut parler de Ferrari?
Oui, avant de parler d'eux, j'ai envie de dire... oui, Fernando Alonso a abandonné pour la première fois dans une voiture Aston Martin.
C'est vrai? Depuis? Ah ben oui!
Oui. Ouais, il a eu des problèmes de plancher. On pensait que c'était des problèmes de...
Non, c'est la suspension.
De suspension, mais c'est... Mais c'est sûrement relié aussi, mais c'est un premier abandon pour Alonso avec Aston Martin.
Oh. Alors, Ferrari, là, je veux t'entendre. On part en pole.
Ah oui, et d'ailleurs, si jamais vous creusez Charles Leclerc, ne parlez pas de son ratio de conversion de pole en victoire, parce que...
C'est zéro, hein?
Ouais.
C'est zéro ou il en a réussi une?
Ah, il en a réussi. Ses victoires, entre autres, comment j'appelle? Ben, ses 2 premières victoires, entre autres.
Ah oui, c'est vrai.
Mais son ratio, mais quand même, son ratio n'est pas tellement bon. Puis d'ailleurs, il ne veut plus qu'on en parle. Mais déjà, le fait qu'il soit fait manger par Lando Norris au départ... Mangé ensuite par Lewis Hamilton, Max Verstappen et ensuite Carlos Sainz. Une stratégie à un arrêt que j'ai
entendu. Enfin, Carlos Sainz, excuse-moi, Abdou, mais c'est l'équipe qui demande de lui laisser la place.
Oui, ça c'était à la fin, mais au départ aussi.
Ah oui, au départ, oui, c'est vrai.
Au début aussi, je crois qu'il y a eu un dépassement aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais quand même.
Ah oui, c'est vrai, au 6e tour.
Mais.
5e tour. Sans forcer en plus, les 2 fois. Il se fait dépasser, sans forcer.
C'est ça, les 2 fois.
Sainz se dépasse facilement, puis Hamilton le dépasse sans forcer.
Ah ouais, non, mais je pense que cette Ferrari a vraiment le don de gruger les pneus très rapidement. Aujourd'hui,
bonne sur un tour, très bonne sur un tour.
Très bonne, oui. Ah oui, ça a été quand même la voiture qui a été capable de challenger Red Bull en qualification à quelques occasions. Et ça a été le cas encore aujourd'hui, mais en fin de semaine, mais aujourd'hui en course, ça a été horrible. Et surtout, la stratégie à un arrêt. Oh mon Dieu. Déjà, ça n'a pas fonctionné avec Lewis. Mais Ferrari a décidé de faire d'y aller YOLO comme ça avec Charles, puis ça n'a pas fonctionné. Et Charles était en
Il était en furie après l'équipe. Surtout lorsqu'on lui a dit de laisser passer Sainz parce qu'il devait. Parce que Sainz était plus rapide que lui. Ce qui était vrai, mais ce qui l'a mis en position très défavorable face à Perez, parce que du moment que Sainz l'a dépassé, du moment que Sainz a dépassé Leclerc, Sainz ne l'a pas aidé pour faire l'effet de slingshot pour pouvoir garder le DRS et se protéger de Perez. Perez l'a mangé tout rond très facilement, mais n'empêche, Sainz. Au moins là-dessus, on peut dire que Ferrari a bien agi parce que c'était la chose à faire. Sur la stratégie globale d'un arrêt, c'était pas ça qu'il fallait faire aujourd'hui.
Non, et vraiment, je pense. Même parce que, j'ai pas vu du côté du Japon et du Qatar, mais depuis quelques Grands Prix, Ferrari.
Qatar, c'est plus compliqué, tout le monde devait s'arrêter.
Ouais, Qatar, c'est l'exception.
Ouais.
Qatar, c'est l'exception. Mais pour le reste, à un moment donné, Ferrari a été relativement correct en matière de stratégie. Aujourd'hui, ça a été un peu un retour à la normale, je dirais, là, dans mes standards d'homme de 31 ans.
Ouais.
Mais
parce que je regarde mes notes du Japon, là, et Leclerc part 4e, finit 4e, Sainz part 6e, finit 6e.
Ouais, et surtout qu'ils se sont fait des passes. Surtout qu'il y avait les Mercedes aussi, je pense.
Oui, ben Hamilton a fini 5e, Russell 7e. Donc, ils étaient vraiment. Leur duel se faisait là. Parce que c'était vraiment McLaren qui était devant. Mais n'empêche, ce jour-là, ça avait bien fonctionné parce que ils étaient à leur position légitime. Alors que là, pour la qualification, le résultat de la qualification de Austin, c'est au-dessus de leur performance habituelle en Grand Prix.
Ouais.
Ils ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs qu'ils auraient dû être au final.
C'est ça.
En raison notamment aussi du track limit de Max Verstappen en qualif.
Exact.
Ce qui aurait été moins humiliant de dire je commence 2, je finis 6, là, t'es poleman.
Eh oui.
Tu finis 6.
C'était assez quelque chose, là. Mais... Non, j'ai un peu de mal parce que. Moi, j'ai regardé ça avec mon ami aussi, puis on se disait, c'était trop tard pour Charles pour faire un arrêt, parce que d'une manière ou d'une autre, il allait se faire bouffer par Perez.
Ouais, mais je comprends juste pas l'idée en disant un arrêt, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui.
Oui.
Je comprends qu'il n'y a pas eu les deux séances habituelles pour évaluer les pneus, mais il me semble que ça tombe sous le sens.
Ben oui.
En même temps, Pirelli avait dit aussi qu'un arrêt était peut-être possible.
C'était possible.
Oui, mais c'est pas parce que Pirelli dit que c'est faisable que c'est recommandé.
Exact. C'était genre la quatrième option possible pour le one-stopper entre les tours 20 et 26.
Donc, moi, je vois ça comme un plan, pas comme un plan A, ni B, ni C, c'est un plan D, c'est le quatrième plan. Donc, c'est peut-être pas l'optimum.
Ou plan E ou plan F dans les standards de Ferrari.
Ou G. Plan G, on a déjà vu ça, plan G.
Oui, j'ai pas encore vu de plan H, alors.
C'était-tu plan G ou plan H? Je me rappelle plus. On a déjà vu des plans très loin, là.
Ouais. Mais. Écoute. Chapeau quand même à Leclerc d'avoir. D'avoir quand même fait 33 tours sur la gomme dure. Mais c'était...
Le Grand Prix le plus rapide n'est pas celui avec le moins d'arrêt.
Ouais.
Exact. C'est ça qu'il faut garder en tête.
Exact. Parce que je crois
que... Ce que dit Alain Prost, hein, la façon de gagner, là, c'est pas en gagnant le plus rapidement possible, c'est en étant le moins lent possible.
Voilà. Et ça, Carlos Sainz l'avait compris à Singapour.
Exact.
Donc, tiens... Ouais, je pense à l'impression que j'ai gagné aux États-Unis, si je me trompe pas. On va parler des Américains. On va parler de Logan Sargeant.
Bonne performance.
Ouais,
12e. Ouais, à une seconde de son coéquipier.
Ah, c'était une bonne. Non, c'était vraiment. Il finit 12e, marque pas de points, mais ça a été quand même. On l'a vu à quelques reprises lors de la retransmission. Il a fait une bonne course, je trouve.
Il a fait des dépassements. Il a bien dépassé. Magnussen.
Oui.
à mon souvenir. Mais quand même, il finit à 1,2 secondes de son coéquipier dans un Grand Prix. Je pense que c'est le plus petit écart cette saison avec Albon.
Oui.
C'est Albon qui n'a pas connu un super Grand Prix. C'est sûr qu'il y a eu une pénalité de 5 secondes pour un track limit. Là. Mais je m'attendais à mieux.
Et en plus, ben, tu vois, Albon a été blanchi d'autres, d'autres pénalités de track limits.
Ouais, parce qu'il s'en est pris trois dans les cinq derniers tours, dont le troisième qui a valu la pénalité.
Ouais. Alors, attention, je...
Breaking news.
Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont sous enquête après que la FIA ait trouvé des usures au niveau des planks.
La planche?
Ouais.
Oh, ça peut coûter cher.
Ouais.
Ça peut coûter cher.
Ça peut coûter cher. Holy shit.
Ouais. Ben, si c'est quoi habituellement une pénalité pour une planche illégale? C'est 10 secondes?
Ben, ça peut être, je sais pas si ça peut mener à une disqualification parce que c'est sur une règle technique.
Ouais, mais ça va quand même coûter du temps, ça.
Ouais.
Mais c'est 10 secondes minimalement, là, mettons qu'on met une pénalité de 10 secondes, Hamilton perd la deuxième place du podium.
Ouais, il la perd définitivement. Là.
Ouais, parce que l'écart est de 8.
Ouais. Ouais, mais
ça, OK, bon, on va surveiller ça. Hein.
On va surveiller ça aussi. Parce que c'est quand même assez huge, là.
Ouais.
Mais bon, je vais essayer de trouver c'est quoi la signification en tant que telle. Parce que ça vient en règle à l'article 3.5.9, alinéa 1 du règlement technique de Formule 1 de 2023.
Donc, très bien.
Ouais. Donc, ouais, ça va être à surveiller. Mais en attendant, on va continuer avec Haas, qui, tout comme Aston Martin, sont partis de la ligne des puits. Haas, évidemment, ça, c'était à un moment donné, c'était correct, mais on ne s'attendait pas à grand-chose. Eux, ils se préparent déjà pour 2024.
Obligé. Mais ils ont eu une mise à jour aussi sur la voiture, mais oui. Qui est une forme de transition pour 2024.
Exactement. Donc, ça a été une course moyennement correcte. Donc, c'est ça. Puis pour revenir, parce que je regarde Twitter en même temps, normalement, c'est une disqualification pour des non-conformités techniques.
Oui, ça pourrait faire mal, ça.
Ça pourrait faire mal.
Ben, d'une certaine façon, nous, étant Canadiens, on espère que ça arrive. Comme ça, Stroll va finir septième.
Eh, hey, ouais, hein?
Hey. Et Sargent marquerait un point, enfin!
À la maison, hein? Eh oui, imagine! Oh, ça va être à surveiller, là, hein?
Ouais, ça, c'est à surveiller parce que Sargent pourrait marquer un point.
Ouais. Donc, ça, c'est potentiellement une disqualification. Mmh. Donc, là, on a parlé de Haas. Là, j'ai envie de parler de F1 Academy parce que c'était la dernière ronde en fin de semaine.
Oui, il y avait les trois courses à Austin, oui.
Et diffusé en plus, en direct.
Diffusé, oui, en direct. C'était disponible en clair sur YouTube et c'était diffusé aussi sur Sky Sport Formula One parce que c'était les gens de Sky Sport qui faisaient le tout l'ensemble de la description. Enfin, le plateau aura sur le bord de la piste, c'était avec les microphones de Sky Sport.
Ah oui. Et
c'était chouette. J'ai regardé une course, j'ai regardé la sprint, la course numéro 2. Alors, la course de 8 tours, assez intéressant.
Eh oui.
Le niveau est quand même bon.
Ah oui, vraiment.
Parce qu'en qualif, les femmes ont un écart de 2 secondes de la première à la 15e voiture pour un tour d'à peu près 2 minutes 8. Donc, c'est quand même très respectable pour des Formule 4 équivalentes parce que c'est pas tout à fait des Formule 4 de ce que j'ai compris. Là. Il y a un petit peu moins de chevaux que par rapport à une Formule 4, mais c'est essentiellement une Formule 4.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment dans cette vibe-là, en fait. Et
le niveau est assez compétitif.
Ah oui, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment, parce que c'est certes, j'ai regardé des, j'ai regardé les faits saillants et tout ça parce que c'était pas télévisé, ben c'était pas diffusé en direct,
non.
Ce qui aurait dû.
Et ça l'était sur YouTube.
Heureusement, ça l'était. C'était sur YouTube et même sur TSN Plus au Canada, mais
ouais.
C'était mieux sur YouTube. Mais quand même, j'ai vraiment aimé le niveau. Évidemment, Martha Garcia, qu'on a vu dans la série W, sacrée championne, elle a dominé la saison. Il y a aussi Abby Pulling, qui était aussi dans la série W, qui appartient à Alpine, qui a bien fait aussi. Lena Buller, qui appartient à Sauber.
C'est officiellement Sauber.
Ouais, je vais arrêter de dire Alpha Romeo, c'est
un... Ouais, parce qu'Alpha Romeo fait donner un chèque à Sauber pour avoir leur nom sur l'équipe. Donc, c'est quand même Sauber.
Donc, Lena Buller finit vice-championne. Quand même. Et puis tu avais aussi Jessica Edgar qui m'a vraiment impressionné. Hein. Certes, elle a obtenu la pole, je pense que c'était pour la course numéro 3, si je ne me trompe pas. Et elle a été vraiment bonne dans la course numéro 3. Elle a été vraiment bonne. C'était sa première victoire dans la saison. Mais je pense qu'il y a quand même... Il y a du bon talent. Hein. C'est juste... Le monde voulait voir ce que c'était, en fait. De voir ça en direct plutôt que d'avoir l'effet saillant hyper condensé de 3 courses en même temps.
Ouais.
Donc, au moins, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que le fait que ce soit dans un des grands prix phares de la Formule 1 avec Liberty Media, on s'entend là.
Oui.
Au moins, tu donnes une bonne visibilité.
Le niveau me semble plus intéressant que l'Indy Lights.
Ouais, ouais.
Enfin, la façon dont ça s'appelle maintenant, Indy Next, je ne sais plus quoi là, mais.
Ouais,
Indy
Next, ouais, effectivement.
Ouais.
Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, il y aura sept manches, ben, 7 rondes de la F1 Academy. On va commencer du 7 au 9 mars en Arabie Saoudite. Ensuite, on s'en va...
Sur les fins de semaine des Grands Prix de Formule 1 cette fois-ci.
Exactement. Sur les fins de semaine de Grands Prix de Formule 1.
Ah, plus de visibilité.
Plus de visibilité, potentiellement diffusé sur F1 TV. Ben, ça va être diffusé sur F1 TV. J'espère que ça le sera aussi sur YouTube. Pour au moins donner une meilleure visibilité.
Ouais.
Ensuite, après Arabie Saoudite, ça va être à Miami. Ensuite,
ouais,
en Espagne, à Barcelone.
Ouf, ça va être chaud là-bas. Fin juin, il ne faut pas l'oublier, c'est fin juin, c'était l'année prochaine.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ensuite, ça va être aux Pays-Bas, 25 août.
Super.
Ensuite, on s'en va à Singapour.
Ah oui, on les amène loin, là. Ça coûte cher, tout ça.
Eh oui, hein, quand même. Et au moins, c'est parce qu'il y a un mois, il y a presque, il y a deux mois de distance entre les épreuves.
Oui, mais ça, c'est normal qu'on dans ces niveaux-là, F3, F4, les week-ends de Grand Prix sont beaucoup plus espacés.
Oui, et d'autant, et il y en a aussi qui participent à d'autres courses aussi.
Ben, c'est ça aussi.
Donc, au moins, ça les accommode.
Plusieurs font du GT aussi ou autre type de compétition.
Oui, exactement. Comme Carrie Schwiner aussi qui fait de la GT, entre autres. Ensuite, la saison se terminera au Qatar et à Abu Dhabi. Donc, un back-to-back au Qatar et à Abu Dhabi. Les 29 au 1er décembre pour le Qatar et le 6 et 8.
Ben ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'on les amène quand même sur les vrais circuits de Formule 1 pendant les fins de semaine de Grand Prix. Donc, plus de visibilité, plus de compréhension, plus les intégrer au paddock. Ils peuvent rester là pendant la fin de semaine, voir le rythme, au lieu d'être souvent des pilotes de développement. Donc, qui restent à l'usine, qui font du travail sur simulateur, qui est, oui, du travail gratifiant, mais qui n'est pas aussi immersif que d'être dans le paddock pour comprendre les logiques qui s'y déroulent. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut juste le pousser davantage. Il faut trouver les bons talents qu'on peut mettre en prêt dans des F3, éventuellement dans des F2. Il ne faut pas juste les cantonner dans des voitures de type F4 et dire « c'est bon, on a fait le travail ». Donc d'ailleurs, soit dit en passant, bravo à Lewis Hamilton d'aller voir ces jeunes femmes pendant le week-end, d'aller les saluer.
Oui.
Shame à tous les autres pilotes qui ne sont pas allés. C'est quoi passer une tête, aller dire bonjour, les féliciter, c'est 10 à 15 minutes dans un week-end, c'est pas difficile. Donc, shame à tous les autres pilotes puis à toutes les autres équipes qui l'ont même pas imposé aux pilotes, parce que là-dedans, il y a plein de pilotes qui sont... ces jeunes femmes-là sont signées avec des équipes de Formule 1 ou qui ont des commanditaires apparentés avec les équipes de Formule 1 et qui pourraient faire des convergences, alors que elles sont vraiment juste cantonnées à faire « Ah oh oui, c'est les courses des femmes, on les met là. » Donc, il y a quelque chose d'un petit peu insultant de la part des hautes sphères de la Formule 1 à pas aller voir ces femmes-là. C'est pas parce que c'est du F4 équivalent, c'est... On essaye vraiment d'en pousser pour en avoir des femmes en Formule 1. Là. Il est à peu près temps.
Et t'es pas le seul à dire ça. Suzy Wolff aussi trouve que c'est dommage que ce soit Lewis. Bon, George était là parce qu'il est le président. Je pense qu'il était
le président des pilotes.
Président des pilotes. Alors, c'est un peu son devoir, mais Lewis l'a fait.
Mais après, la diversité, c'est Lewis Hamilton qui va voir l'autre diversité, c'est-à-dire... diversité, dans ce cas, c'est même minorité, là.
Ouais.
C'est-à-dire les femmes pour aller leur dire c'est chouette, alors qu'il y en a 19 autres, 18, là, si on exclut Russell, qui n'ont rien fait. C'est pas difficile à trouver 15 minutes dans son week-end, je m'excuse.
Et je dois aussi saluer la décision de McLaren d'avoir signé Bianca Bustamante.
Excellente signature, comme pilote de développement, là, à l'usine.
Et elle est vraiment bonne.
Ouais.
Ah oui, elle est vraiment bonne. Je la suis un peu, puis ouais.
Elle fait pas encore de la F3, hein?
Elle fait pas encore de la F3, mais je pense que avec l'apport de McLaren, là, ça pourrait l'aider à bien la développer aussi.
Ouais. Bah, elle a gagné avec Prima, non?
Ouais, elle était avec Prima, avec Marta Garcia et Chloe Chong.
C'est une très bonne équipe de façon générale, donc. Oui. Puis eux, ils ont des sièges en F3 puis en F2.
Exactement. Donc, au moins, il y a...
Une filière.
Il y a une filière, puis Prema est quand même bien placé. Une des meilleures équipes juniors avec Carlin, MP Motorsport aussi qui sont là.
Aussi,
je dois préciser que l'année prochaine, il y aura 10 voitures aux couleurs des écuries de la Formule 1 lors de la F1 Academy. Donc,
très bien.
Donc, ce qui fera en sorte que Bianca Bustamante sera dans une voiture McLaren, aux couleurs de McLaren l'année prochaine.
Mais il faut surtout la monter, il ne faut pas qu'elle finisse en F4.
Oui, et aussi, j'espère aussi voir Abby Pulling. Je pense qu'elle devrait revenir avec Alpine, dans la série parrainée par Alpine, vu qu'elle est une pilote de l'Académie.
Ouais.
Mais j'aimerais la voir aussi ailleurs, parce que je pense que elle aussi... ce qu'elle avait montré en série W, ainsi que de ce que j'ai vu aussi en direct... c'est vraiment une très bonne pilote.
Super.
Donc, c'est ce qui complète cet épisode d'après-course dans le cadre du Grand Prix des États-Unis à Austin. Donc, on sera de retour cette semaine pour un autre épisode du Bulletin GP, l'épisode hebdomadaire. Et je vais vous dire tout de suite, on va parler du sprint. Parce que j'ai pas de temps apprécié le sprint.
Il faut régler le problème du sprint. Ça fait longtemps qu'on en parle dans le palado.
Oui.
Puis là, il faut commencer sérieusement à régler le problème du sprint parce que ça marche plus.
Oh non.
C'était intéressant au début parce qu'on disait, oh, quelque chose de nouveau, mais...
Il y a un problème.
C'est more of the same à chaque fois.
C'est ça, il y a un problème.
Ouais.
Alors, on parlera du sprint cette semaine. Et vous pouvez nous écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et autres. Évidemment, on est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads aussi. Je dois aussi remercier Marc-André de m'avoir remplacé pendant mon absence. Donc, il a très, très bien fait ça en plus. J'ai écouté les épisodes de l'extérieur et puis vraiment, vous avez bien fait en mon absence. Donc, je vous remercie infiniment. Et en plus, on est aussi disponible sur La Monoplace, le groupe Facebook où vous pouvez parler de Formule 1 entre Québécois. Donc, un énorme merci d'être sur la page et de nous écouter à chaque semaine. Donc, ça fait du bien d'être de retour. Donc, Jean-Sébastien, un énorme merci d'avoir été là.
C'est un réel plaisir et je vous invite à ce moment-ci d'arrêter le balado et d'aller écouter l'hymne national chanté par Steven Tyler pour l'Indianapolis 500 2001. Je m'excuse d'avance.
Oui, et je m'excuse pour toutes les oreilles que qui ont probablement mal en ce moment. Donc, là-dessus.
Je viens de t'envoyer le lien pour que ça soit ajusté dans le balado, là. Donc.
Ah oui, merci, je viens de le voir.
Ayez du plaisir.
Et je pense que là-dessus, je vais vous quitter pour aller moi aussi me faire mal aux oreilles. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve jeudi pour l'épisode hebdomadaire où on va parler du sprint. Et aussi, notez qu'il n'y aura pas d'épisode d'après-course dimanche dans le cadre du Grand Prix de Mexico City. Ça sera la semaine prochaine lors de l'épisode de jeudi. Salut tout le monde!